Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Le mot du jour, IKEA.
Oh boy! OK, tu reviens sur l'émission de la semaine passée. IKEA.
IKEA.
My God, là, tu me surprends, sérieusement. Attends. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas perdu la petite clé Allen pour monter l'émission. Contrairement à ce qui peut arriver dans une boîte de meubles IKEA.
Uh-huh. Où il manque une vis.
Où il manque une vis, ou encore des fois, c'est juste la clé Allen. Tu dis, mais semble que j'avais gardé une clé Allen pour monter les meubles IKEA.
Oui.
Ben, on a tout le kit au complet aujourd'hui. On va être bon pour monter l'émission. Pas pire.
Honnêtement, c'est bon.
C'est pas si pire.
C'est franchement bien. Salut, okay. Simon.
Salut, François, comment ça va?
Ça va bien. Et toi?
Oui.
Oui.
T'as brûlé un peu mon punch la semaine passée, mais c'est pas grave.
Non, mais c'est parce que là, au moins, les gens vont comprendre le pourquoi.
C'est ça.
Que t'as toujours un mot pour ouvrir l'émission, ben là.
Souvent,
on
écoute,
va essayer d'en trouver des bizarres, là.
Ça, je commençais à faire de la radio, il y a une trentaine d'années, à peu près, au début des années 90. Puis, c'était comme, je sais pas, c'est pour lancer mon émission, tu sais, quand tu manques d'inspiration. J'ouvrais la page d'un dictionnaire. Plus difficile aujourd'hui, on en a plus beaucoup. On va aller pour des définitions. Mais puis je prenais un mot, n'importe quel, j'ouvrais une page, puis là, j'essayais d'ouvrir l'émission
avec
ce mot-là. Ça me permettait de faire un exercice d'impro en même temps, dans une certaine mesure.
C'est ça, ça fait travailler.
C'est resté. Ça fait que...
Ça fait travailler les quick-quick en haut. Ouais.
Mais je sais que les gens s'en rendent pas nécessairement compte. Toujours, ça a un lien, hein, tu sais.
Mais il y en a toujours un plate qui arrive puis qui brûle le punch.
Ben non, mais c'est correct. Pas de problème. Donc là, les gens vont essayer de deviner dorénavant.
Exactement.
L'ouverture d'émission.
C'est quoi le mot?
C'est quoi l'espèce de mot de lien, la patente qui a essayé d'entrer dans son intro?
Ouais. OK. Effectivement.
Ben, bienvenue.
Oui, bien. Oui, ceci dit, bienvenue tout le monde.
Bienvenue dans
l'émission.
Dans cette autre émission, cet autre rendez-vous, monté un peu comme un meuble en kit IKEA, là.
Oui, c'est exactement ça.
Mais dont on a toujours la clé Allen. Parce que,
ben oui, celle-là, on l'a pas perdu.
Des fois, on l'échappe un peu en cours de route. Ça arrive, tu sais, des fois, il y a un morceau qui tombe un peu, mais généralement, on arrive au bout de la ligne.
Oui.
Puis,
on est pas pire, là.
Tu regardes ça, puis ça a l'air
droit. C'est assez bien monté.
C'est ça. Tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui?
OK, si je te dis 1000 pattes, 100 pattes, je te parle de...
D'insectes.
De bibites.
Ouais, de bibites, ouais, c'est
bibites.
T'es plus dans le rang des insectes, là. T'es vraiment dans le rang des bibites.
Des bibites.
Ah ouais.
Pas nécessairement très jolies.
Non, j'avoue. Non.
T'es comme ils sont pas nécessairement bien cute. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une bibite qui est à la fois tellement laite, mais tellement pratique à avoir dans sa maison.
Ah oui, c'est ça. Ça a une utilité indéniable. Ça,
oui, absolument. C'est la scutigère. La scutigère.
C'est que ça mange en hiver.
Ça a l'air d'un mille pattes avec des antennes.
Oui.
Avec des belles grands pattes puis tout ça. Son vrai nom, c'est...
Tiens-toi bien. Vas-y, là.
La cutigera coleoptrata. Donc, cette bibite, vraiment laite, c'est une centipède.
Okay.
OK. Elle est dans la famille des centipèdes, donc cousin des mille pattes, mais elle n'a pas 100 pattes. Mais elle vit dans les maisons et elle se cache en particulier dans les endroits qui sont chauds.
Hey, c'est pas de joke, là.
Chaud
et
humide.
Attends, c'est psychologique, là, je sais, là, mais ça me pique, t'en parles, puis j'ai l'impression que ça me démange.
Attends une minute, c'est pas fini.
Ouais.
Ça va te démanger tout à l'heure, mon chum. Donc, dans des endroits chauds et humides comme le sous-sol.
Ben oui.
Et la salle de bain. Ça, c'est vraiment sa préférée. Ils sont dans les tuyaux aussi. Alors, c'est possible qu'à un moment donné, vous envoyez une dans le bain.
Ah oui.
C'est parce que elle se cache dans la tuyauterie, fait qu'à un moment donné, ben, elle sort, puis là, ben, elle est pognée dans le bain parce que c'est ben bon, ouais, des pattes, mais je veux dire, elle a pas de suce ses pattes, elle, là.
Oui, elle peut pas grimper contre les parois.
Elle peut pas grimper, donc. La bibite aime pas la lumière. Vraiment pas la lumière. Elle fuit la lumière. Donc, si jamais vous arrivez face à face avec la bibite, ça se peut qu'elle fasse le saut puis qu'elle fasse... qu'elle reste sur place parce que là, elle s'attend pas à voir quelqu'un.
Exact.
elle est beige et brune, avec trois lignes foncées qui s'étendent sur toute la longueur de son corps. Elle dépasse rarement 5 cm, mais ça se peut qu'elle soit un petit peu plus longue que ça. Et elle a l'air beaucoup plus longue à cause de ses pattes, parce que ses pattes sont vraiment très, très longues. Et tiens-toi bien, elle en possède donc 33, qui sont de plus en plus longues en partant de la tête vers l'extrémité de son corps. Elle a bien fait la bite, là. Fait que de cette façon-là, elle peut pas s'enfarger dans ses pattes, puis elle est vite.
Oui.
C'est une bébite qui se déplace excessivement rapidement, 40 centimètres seconde.
Yow!
Fait que 0,60, là, elle le fait en 2,3.
Wow!
Ses yeux, elle en a plus que deux, mettons, parce que c'est tout un paquet de petits yeux, oh, jusqu'à 600, que l'on appelle des ocelles.
Ah, c'est un peu comme la mouche, peut-être, ça doit sembler.
Oui, genre un petit peu, ouais, comme la mouche, oui. Ouais. Oui, oui. Si tu te souviens du film La Mouche, là.
Oui, oui,
The
avec
Fly,
un
là.
Paquet de ouais, petites cellules oculaires, là, je sais pas trop comment on pourrait.
C'était, ah, c'était
ouais,
vraiment cool, ce film-là.
Ouais.
Même si elle est hyper laide et que, à la vue de la bébite, tout ce qu'on a envie, c'est de faire.
Ne faites
pas ça.
Non.
Ne faites pas ça parce que cette bibite-là est tellement utile parce que elle mange énormément d'autres bibites et c'est pour ça qu'elle se trouve dans votre maison.
Ouais.
C'est pour manger les autres bibites, dont les araignées, les fourmis, les petits poissons argentés.
Ah oui.
Fait que tout ce qui est des bibites, finalement, qu'on retrouve où il y a de l'humidité, elle, elle les bouffe.
Ça fait que c'est un exterminateur, c'est un contractuel que vous avez pas besoin de payer en cash.
Exactement.
Mais que vous payez avec des araignées puis d'autres, oui, bébites.
C'est ça. Alors, il vaut mieux la laisser.
OK.
Elle va chasser les autres bébites, elle va tout bouffer ce qu'il y a dans votre maison. Et ce qui est le fun de cette bébite-là, ouais, elle va pas toucher, elle va pas toucher les structures. Elle va pas s'attaquer à la maison du tout, s'attaque pas aux animaux non plus de compagnie, sauf que votre chat va probablement faire le saut quand il va avoir, par
oui,
exemple.
Oui, ben c'est ça.
Il va probablement jouer avec, il va l'effoirer, mais il va pas s'attaquer, mais ça mord.
Ah.
Oui.
Elle va se défendre autrement.
Elle va se défendre, elle a des petits crochets, et puis elle va injecter un petit peu de venin. Ça se peut que si jamais vous faites mordre par cette bébite-là, que vous ayez une petite bosse, ouais, genre une rougeur, okay, une petite bosse, un peu comme quand tu te fais piquer par une abeille.
Oui, 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 oui,
bon,
oui, oui, oui.
Ça se peut que tu aies une petite réaction.
Inconfort.
Là, mais that's it. That's
okay
it. Mais donc, si vous voyez cette bébite-là, la scutigère.
Oui, oui.
OK, faites juste un...
Une recherche
sur Google, là.
Ouais.
Scutigère.
Ouais.
S-C-U-T-I-G-E-R-E.
Oui.
Et regarde la bibite.
Tu nous parles pas de ça niaiseusement, toi, là. T'as l'air d'un gars qui a fait une rencontre avec un scutigère, hein, sais-tu?
Ça m'est arrivé, oui, une fois dans ma vie de voir cette bibite-là. Et honnêtement, là, j'avais fait tellement le saut, là.
Ah ouais.
Ben, voyons donc, c'est quoi cette bébite-là? Et là, ben, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est...
Ah!
Hein? Et après ça, je suis allé sur l'Internet et j'ai fait une recherche pour voir, premièrement, c'était quoi la bébite?
Oui.
Puis à quoi qu'elle sert? Ah. Et c'est là que j'ai appris que... Oh, excusez.
Oh.
J'ai essayé de faire la...
Ça n'a pas marché.
Non.
Ouais.
Non.
C'est un peu compliqué.
Oui.
Moi, je vous parle de quelque chose qui se passe dans les airs, mais on n'est pas rendu dans l'espace dans la mesure où l'histoire se termine de façon très abrupte. C'est probablement l'une des histoires les plus bizarres dont on a entendu parler ces dernières années dans le domaine de l'aérospatiale.
Tu piques ma curiosité.
Ça s'est passé récemment dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est une petite fusée de la société UP ou Up Aerospace,
okay,
qui a explosé,
mm-hmm,
il y a quelques jours ou semaines. Ça s'est passé le 1er mai dernier, quelques secondes après qu'elle ait été lancée.
Okay.
Et ce qui est un peu particulier, c'est qu'à son bord, on trouvait du matériel pour réaliser une douzaine d'expériences qui devaient être effectuées par des étudiants pour le compte de la NASA. Mais il y avait également 120 morts.
Hein?
En fait, 120 urnes funéraires dont les cendres devaient théoriquement être envoyées à une altitude suborbitale c'est-à-dire juste aux frontières entre la Terre et l'espace.
Ouais.
OK. C'est que la fusée Spaceloft XL de la compagnie Up Aerospace s'est donc envolée, comme je le disais, le 1er mai dernier, mais à peine 3 secondes, pas rendu très haut, là.
Non.
3 secondes après le décollage, pouf, ça a explosé.
Hmm.
Ouais. Et à l'intérieur, il y avait les cendres, les urnes funéraires de 120 personnes décédées,
okay,
qui devaient être placées en microgravité par l'entreprise Celestis, qui, elle, a réservé des places dans cette, cette aéronef-là. Et cette entreprise-là offre aux familles l'opportunité d'honorer leurs proches disparus de cette façon-là, en envoyant les cendres dans l'espace.
Et
parmi les défunts, mais attends, il y a quand même une fin pas pire dans tout ça.
Ah, ouais. OK.
Ça tourne un peu au désastre quand on regarde ça comme ça, mais à la fin, on dit, ah, ben, finalement, ça finit pas si pire.
Mais juste une petite parenthèse, il y a personne d'un...
Non,
il y avait pas d'humain dans...
C'est ça, il y avait 120 morts à bord,
mais ouais, il était déjà mort.
Okay. C'est ça. Alors, c'est ça qui est de plus exceptionnel dans l'histoire. C'est qu'entre autres choses, il faut vous dire que parmi les défunts, il y avait les cendres de l'astronaute Philip K. Chapman, qui est décédé en avril 2021, un type qui est né en Australie, qui était astronaute pour la NASA, qui était le premier Américain d'origine australienne à, justement, à avoir été astronaute pour la NASA.
Hein?
Puis, malheureusement, il est mort en 2021, puis lui, il voulait aller dans l'espace et tout ça, fait que il devait justement propulser.
Ben oui.
Mais ce qu'il y a de plus exceptionnel, c'est que la manière dont c'est fait, c'est que si y a un pépin technique, c'est qu'ils sont capables de récupérer les urnes, et les 120 urnes ont été récupérées. Ça a tout comme tombé, je sais pas comment.
Uh-huh.
Ils ont tout récupéré les urnes. Ils ont été capables, les 120 urnes. Et conformément au contrat, il y a un vol de remplacement gratuit qui va se faire dans la prochaine mission, qui va partir vers... j'allais dire l'espace, mais c'est en suborbital, si on veut. C'est à frontière.
C'est pas
tout à fait dans l'espace, mais t'es comme un petit peu accroché, là, si on veut.
Okay.
Et les étudiants, eux autres, la NASA a dit, sorry, mais ça finit comme ça. Puis, écoutez, on vous remercie de votre contribution. Puis, si jamais dans un prochain vol, à un moment donné, vous voulez envoyer une expérience, on vous réservera à vous autres une petite place. Et c'est ainsi que se termine cette histoire-là. 120 morts dans une fusée. Tous déjà morts, mais là, ils vont retourner.
Mais qui sont encore... Ben, pas vivants, là.
Tu racontes ça, hein?
Oui, c'est
un peu bizarre comme histoire.
Ben, c'est weird comme histoire, parce que, tu sais, tu dis, OK, on envoie 120 morts, puis ça explose.
Ça explose, ils meurent pas.
C'est ça.
Ils vont retourner.
Il
y a des histoires comme ça, des fois.
Abracadabrante.
Merci beaucoup. On va s'arrêter pour la première pause de l'émission. On revient dans un instant avec une entrevue sur les sondages à la radio. Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça donne? On vous raconte
intéressant.
Tout ça.
Cette émission peut contenir des infos.
François, tu sais que rendu à cette période-ci de l'année,
oui,
la fin des classes, ça approche.
Ça approche rapidement, oui. C'est une période que toi, t'aimais?
Ça dépend. Il y a des années que ça allait mieux que d'autres.
Oui, c'est
là,
ça.
Je voyais la fin de l'année comme une délivrance. Il y en a d'autres où, je sais pas, il y a des années top.
Il y avait les bulletins, puis après ça, c'était l'été.
Voilà. Et la raison pour laquelle on va traiter du sujet aujourd'hui, c'est que justement, à l'école, avec la fin de l'année, viennent justement les bulletins.
Effectivement.
Il y a des notes.
On a des belles notes.
Mais on ne parlera pas d'école ou de scolarité ou de quoi que ce soit du genre aujourd'hui. On va parler des bulletins. Des stations de radio et de télévision, disons les sondages de façon générale. C'est les bulletins pour le monde qui travaille dans l'industrie des médias.
Effectivement, une couple de fois par année, on reçoit notre bulletin et on sait si ça va bien ou ça va pas.
Mais on ne connaît pas tous le fonctionnement de ça et on s'est dit, on va se tourner vers quelqu'un qui est dans l'industrie, justement, des statistiques d'écoute, les sondages radio.
Un expert,
effectivement. Il est le président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Stats Radio et qui mesure, justement, l'écoute de la radio, dont celle que vous écoutez actuellement.
Effectivement.
On l'a au bout du fil. Il s'appelle Louis-Philippe Sutton. Salut, Monsieur Sutton.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va super bien, vous autres?
Ça va bien, merci. On va se tutoyer, Louis-Philippe, on se connaît suffisamment.
Absolument.
OK. Louis-Philippe, expert, justement, comme on le disait, de l'industrie de la radio, des statistiques ou des sondages radio, peux-tu expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est quoi les sondages radio? Parce que c'est quelque chose d'un peu méconnu, ça, dans le grand public. Comment on fait pour mesurer, disons, de façon générale, l'écoute de la radio?
Ben, en fait, un sondage radio, ça nous permet d'estimer l'auditoire total d'une station de radio. Puis quand on dit estimer, c'est parce que on peut pas implanter une puce dans chacune des têtes de chacun des gens. Puis, étant donné que la radio, c'est gratuit et c'est diffusé sur les ondes FM, ben il faut faire une estimation. C'est pour ça qu'on appelle ça un sondage. Et il y a plusieurs méthodologies qui permettent de pouvoir sonder l'auditoire, d'avoir le nombre d'auditeurs total. Au Canada, il y a maintenant 4 façons de faire. Il y a quelques années, il y en avait juste 3. Stats Radio faisait partie de ceux-là. Et il y a maintenant une nouvelle firme de sondage qui s'appelle RadioCount dans l'Ouest canadien, qui, eux, font du Day After Recall. Je vous expliquerai peut-être, si vous voulez, qu'est-ce que c'est aussi.
Oui, justement, tu pourrais-tu nous parler un peu des différentes méthodes de mesure de l'auditoire?
Oui. Celle qui est la plus connue, la plus ancienne, qui est une des deux méthodologies utilisées par Numéris, c'est ce qu'on appelle le cahier de sondage. Dans le fond, ce qu'on fait pour estimer l'auditoire, c'est qu'on va envoyer dans une région. Ça peut être entre 200 à 2000 cahiers de sondage, dépendamment de la grosseur de la région. Et on va espérer qu'il y a des gens au bout qui reçoivent ce cahier-là et qui vont répondre pendant quelques semaines les stations qui ont écouté à chaque journée. Donc, entre 8h et 8h15, j'ai écouté telle station. Entre 8h15 et 8h30, j'ai écouté telle autre station. Et ça, sur les 7 jours. Ça, c'est la plus ancienne, qui est le cahier de sondage. Maintenant, il y a une version numérique, là, c'est-à-dire que tu remplis quand même ton cahier, mais c'est un peu comme un format PDF sur Internet. Ça, c'est la méthodologie qui est, je dirais, la plus connue. Sinon, l'autre méthodologie de Numéris, c'est les PPM, qui est Personal Portable Meter. Au Canada, il y a seulement 5 régions qui ont ce système-là. C'est les grosses villes. Et ça, c'est des gens qui portent l'équivalent d'un petit padget, quoique maintenant, ils ont changé le format. Là, tu peux porter ça sur ton porte-clés. Et dans le fond, ce petit appareil-là électronique, il entend un signal qui a été encodé dans les stations de radio. Donc, donner des exemples, dans la région de Montréal ou de Toronto, il y a à peu près, à Montréal, il y a 400 familles francophones, 400 familles anglophones qui ont ce petit machin-là. Et dans la région de Toronto, si ma mémoire est bonne, c'est aux alentours de 600 personnes qui portent ça 24 heures sur 24 ou du moins durant la journée. Fait que ça envoie l'information à la firme de sondage et on va extrapoler ces données-là, autant les cahiers que les PPM, pour dire j'ai 10% de la population qui a dit j'ai écouté telle station de radio et on peut faire une estimation et estimer le nombre d'auditeurs total en disant 10% de telle région a écouté telle station. Est-ce que c'est plus ou moins simple, qu'est-ce que je viens de dire, ou plus ou moins compréhensible?
Non, ça va, ça va, on comprend, oui, absolument.
Petite sous-question, Louis-Philippe, est-ce que les cahiers de sondage viennent encore avec un 25 cents?
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est rendu une pièce ou deux pièces, mais tu sais, c'est purement symbolique, là, parce que c'est pratiquement gratuit, mais effectivement, c'est vrai que ce n'est pas une légende urbaine, là, ça venait avec un certain montant d'argent, qui est vraiment minime.
OK. Mais dans le fond, Louis-Philippe, là, tu nous as expliqué les compétiteurs, entre guillemets, là, la méthode des PPM, la méthode des... Mais vous autres, votre façon de fonctionner, c'est tout à fait distinct de ça, là.
Exact. Si tu me permets, je vais aussi parler de RadioCall, qui fait du Day After Recall, qui est une ancienne méthodologie aussi, à la différence qu'au lieu d'être un cahier ou quelque chose que tu portes sur toi, c'est un appel téléphonique. Donc, on appelle des gens sur un panel à tous les jours et on leur demande quelle station tu as écouté durant ta journée. Okay. Ce qu'on appelle un « day after recall », ça veut dire que c'est ce que tu te mémorises d'avoir écouté la veille et ça va donner encore là une estimation de l'auditoire. Pour ce qui est de Stats Radio, nous, ce qu'on a travaillé pendant plusieurs années avec le Conseil de recherche nationale du Canada, c'est d'avoir une méthodologie qui nous permettait d'avoir des données 365 jours par année. Parce que il faut comprendre que si tu envoies un cahier de sondage ou que tu as un petit meter que tu portes sur toi, il faut que cette donnée-là soit, excusez-moi l'anglicisme, mais computée, calculée, puis ça peut prendre un peu de temps. Fait que nous, quand on a lancé cette radio, l'idée, c'était de pouvoir aider les radios en disant, ben moi, le lendemain matin, je veux savoir c'est quoi la performance de mon antenne la veille. Mm-hmm. Et depuis les années 2000-2010, il y a de plus en plus d'écoutes en ligne. Fait que dans le fond, nous, on a réussi notre recette spéciale, c'est avec des sondages téléphoniques tout au long de l'année, dans chacune des régions avec lesquelles on travaille, c'est de pouvoir estimer pour chaque connexion Internet, il y a combien de personnes qui ont exactement le même profil en termes d'âge et de sexe qui écoutent la même station de radio au même moment. Fait qu'en ayant ça, ça nous permet de prendre ces calculs-là et d'appliquer ça, dans le fond, sur l'écoute en stream à tous les jours. Fait que ça nous permet d'avoir une estimation, et ça, 365 jours par année.
Ben, en clair, Louis-Philippe, c'est à toute fin utile comme toute autre méthodologie de statistique ou de sondage. Je veux dire, on part avec un certain échantillon, on vérifie voir si ça fonctionne et on extrapole sur la base de ça, parce qu'on peut pas, évidemment, vérifier ce que tout un chacun écoute dans son auto ou encore à la maison.
Là. Exact.
C'est ça.
Exact. Et l'idée, c'est d'avoir une estimation. C'est d'avoir une estimation qui est la plus réelle possible. Je prends l'exemple. On n'est pas des ingénieurs qui bâtissent des ponts, puis on doit s'assurer qu'au milieu, quand on part de chacune des rives, que le pont arrive à la même place.
Ouais, c'est ça.
Donc, la marge d'erreur peut pas être grande. Dans notre cas, en termes de sondage, que ce soit Stat Radio, Numéris ou Radio Count, l'idée, c'est d'avoir le minimum de marge d'erreur, mais il y en a toujours une, parce qu'effectivement, on doit toujours estimer la population puis estimer l'auditoire.
Louis-Philippe, c'est pas futile, hein, les statistiques d'écoute. Moi, une des raisons pour lesquelles je voulais que tu parles aux auditeurs aujourd'hui, c'est que on a souvent, ou enfin, le commun des mortels a souvent l'impression, puis on tourne un peu ça en ridicule quand les résultats de sondage arrivent. On dit, ah, on sait bien, ils vont tous se mettre premiers, puis ils embellissent les scores, je sais pas trop. Mais je veux dire, pour les gens qui travaillent dans l'industrie, même pour les gens d'affaires qui sont des annonceurs, c'est quand même quelque chose qui est important, là, les statistiques d'écoute.
Effectivement, puis tantôt, l'analogie que vous faisiez à propos du bulletin, c'est très réel. Tu sais, dans le fond, quand on travaille dans l'industrie, puis c'est pour ça, je pense, que la plupart des stations de radio en parlent beaucoup, parce qu'on est un peu fiers des résultats qu'on a faits, mais ça l'est, notre bulletin. Tu sais, c'est est-ce que les auditeurs dans notre région nous aiment? Au-delà de ça, ben, tu sais, dans le fond, quand on fait de la radio, la différence entre faire de la radio, un podcast, puis faire un party de famille, c'est l'auditoire, dans le sens que on a une licence radio sur une bande FM ou AM, peu importe. Ça veut dire qu'on fait ça pour un auditoire. En fait, à la base même de faire de la radio, ben, ce qui est intéressant, c'est savoir, ben, à combien de personnes je parle, à qui je parle. Donc, ça sert à la base, ça. Suite à ça, on fait de la radio. Nos revenus peuvent provenir, pour certaines stations de radio, d'un volet de vente d'annonces. C'est-à-dire qu'un commerçant, une boutique dans votre région, ben eux, ce qu'ils veulent acheter, c'est un auditoire. Ça veut dire, ben quand je vais faire une publicité, est-ce que je vais parler à 10 personnes ou à 10 000 personnes? Ben les statistiques permettent ça, de dire à un commerçant, ben si tu investis chez nous, en échange, ben sur une base hebdomadaire ou pendant ta campagne, tu vas réussir à parler à X nombre de personnes qui vont entendre parler de ton offre.
Louis-Philippe, c'est quoi les limites des sondages radio?
La grande limite, ben, c'est le fait que, comme tout sondage, il y a une grande partie qu'on connaît pas. Donc, c'est avec de l'analyse, puis avec de la compréhension, mais il y a un volet qui, comme on disait tantôt, on peut pas savoir nécessairement si, comment les gens écoutent leur radio dans leur voiture ou à la maison. C'est toujours une estimation, mais c'est ça quand pas juste en radio, c'est ça dans plusieurs domaines. Quand on fait du contrôle qualité, on contrôle jamais toutes les ampoules qui sortent d'une usine parce qu'on les briserait, mais il y a un échantillon qui se fait, puis on établit sur des formules mathématiques que si je prends X nombre d'échantillons, je suis sûr à 90-95% que j'ai raison.
Louis-Philippe, on va compléter avec ça. Comment toi, tu vois, de façon générale, je dirais, les gens qui sont dans l'industrie des statistiques d'écoute, les sondages radio, comment vous voyez l'avenir de la radio, de l'industrie, disons, de façon générale?
Ben, moi, je vois que l'industrie a un avenir brillant, je dirais, surtout en région. Ça, c'est ma perception à moi, là. dans le fond, on voit que les grands médias nationaux, que ce soit à l'écrit ou à la télévision, ont quitté les régions par souci d'économie. Donc, les hebdos sont presque morts. Il y en a qui se sont convertis sur le digital. Mais si on pense à RDI, LCN ou le News Channel, Radio-Canada anglais, News Channel,
oui,
ont même quitté les régions. Donc, en région, le seul qui fait maintenant, le seul média qui fait maintenant du contenu en direct de qualité, ben c'est la radio. On le voit là, dans les sondages qu'on fait, la performance en région est encore hyper performante ou hyper élevée. Donc moi, je pense que les stations radio qui vont s'adapter, qui vont continuer à faire du contenu local, performant ou intéressant pour son auditoire local, vont perdurer. Il y a aussi, ben, il y a le volet vente publicitaire qui doit aussi, je pense, un peu se moderniser et s'adapter, parce qu'on fait face de plus en plus à la compétition du numérique.
Louis-Philippe Sutton, il est le président, il est le fondateur de cette entreprise qui mesure l'écoute de la radio. L'entreprise s'appelle Stats Radio. Louis-Philippe Sutton, merci beaucoup.
Merci à vous.
Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Les Hôtesses d'Hilaire, c'est un groupe francophone originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et, extraordinaire, ils étaient le seul groupe francophone à se produire le soir de la cérémonie de remise des prix des East Coast Music Awards. Et ils étaient également en nomination dans trois catégories cette année en plus.
En plus, oui. Adèle Gros-Perrin, qui est journaliste à la station C98FM à Halifax, pour l'initiative de journalisme local en Nouvelle-Écosse, a rencontré le chanteur du groupe, Serge Brideau. Il parle entre autres, du dernier album, Pas le temps de niaiser, de l'écriture des chansons, ainsi que de l'arrivée du nouveau bassiste dans le groupe, Rémi Arsenault.
Et Serge Brideau explique aussi le changement de direction du groupe, qui, jusqu'à présent, se produisait beaucoup en Europe. Alors, on écoute cette entrevue.
On se trouve au ICMA et je suis avec Serge Brideau, des Hôtesses d'Hilaire. Bonjour Serge.
Bonjour Adèle, merci de m'avoir à votre émission.
Alors, ça a bien commencé. Hein. Hier, les Hôtesses d'Hilaire ont été invitées pour faire le show, oui, à la cérémonie des prix.
On n'a pas rien remporté, mais l'important, c'est de participer. C'est pas vrai. Quand est-ce que tu gagnes, tu te sens beaucoup mieux. Les gens qui disent ça, c'est des hypocrites. Non, mais pas vrai. Moi, j'aime ça gagner des prix. Non, c'est bon pour l'ego. Mais tu fais pas ça pour faire des prix, pour vrai. Mais ça fait la cinquième fois qu'on faisait une prestation à la remise des prix. On était, ouais, ça. Puis j'aime ça, toutes les fois, on vend dehors de la boîte, puis ils nous laissent faire tout le temps ce qu'on veut faire. Puis là, hier, j'ai dit, OK, on va monter une aiguise crayon, j'ai écrit une chanson à propos d'un crayon. Puis là, ils ont dit, parfait. Puis Tony, c'est ben, oh, you do you. Comme ils ne carent pas. Je pense qu'ils aiment ce qu'on fait, parce que ça fait quand même la cinquième fois, là. Puis on va toujours, on a toujours du fun avec ce spectacle-là.
Ouais, du coup, j'ai vu effectivement avec le crayon, là, c'était ouais, super. Puis en fait, j'étais étonnée parce que c'était français, c'était en francophone, là. Et la salle était vraiment, on pourrait dire, hyped. T'as vraiment bien suivi la chanson.
C'est la seule chanson qu'on écrit en anglais. Oh, oui, my name's on it, oui. This is my pencil, my name's on it.
Okay.
Mais, ouais, je sais.
Bah, pour un groupe francophone.
Pour un groupe francophone. Mais tu sais, nous autres, on joue toujours en français. Puis à cause des East Coast Music Awards, on a fait des vitrines à l'international, des vitrines internationales. On a été faire des tournées en Australie. On a fait une tournée en Australie qui était quand même, pour nous autres, extraordinaire. Moi, c'est un moment mémorable de ma vie. Puis, tu sais, les East Coast Music Awards, il y a toujours eu une bonne réception, même si on est francophone. Puis, tu sais, on est habitué, on joue 99% de nos chansons sont en français. Donc, je veux dire, on est habitué d'aller jouer pour des publics anglophones. Puis, il y a toujours une bonne réception. Puis, le monde aime, je pense, la musicalité là, de la langue. C'est un peu ça.
Donc. OK. Donc, on va un peu parler rapidement du dernier album qui est oui. Pas le temps de niaiser.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux un peu m'en parler, l'inspiration, tout ça, tout ça?
Ben, il y a eu je dirais qu'il y a eu comme un... les gars m'ont donné un challenge, on pourrait dire ça de même. Ils m'ont demandé de pas écrire de chansons à sujet politique. Moi, je suis quand même assez impliqué politiquement. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, surtout à l'écriture. Puis on dit, on va-tu ailleurs? Tu sais? Puis OK, si on n'a pas, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de revendication, il n'y a rien de politique dans cet album-là. C'est la première contrainte, c'est la première fois. Tu sais, on a déjà écrit des contraintes, là. On a quand même écrit un opéra rock. Mais là, il y avait vraiment la contrainte de ne pas parler de politique. Puis j'étais comme, OK, je respecte la contrainte. Deuxièmement, c'est un album COVID. Donc, c'était l'album qu'on a pris le plus de temps à écrire. Parce que les autres, d'habitude, on est toujours... Il y a une échéancier, puis on écrit beaucoup. Puis on est chanceux, mais tu sais, cet album-là, on avait écrit 40 chansons, 42 chansons, puis on s'est retrouvé avec ces 12-là. Là. Donc, tu sais, il y aurait assez pour un autre album qui sera prêt à sortir dans pas long. Mais on va attendre. Là. Mais oui, ça, c'était un album qui était le fun à faire. C'est notre premier album avec notre nouveau bassiste, Rémi Arsenault. Donc, c'était vraiment... je pense que c'est le plus de fun que j'ai en studio parce qu'on était justement pas pressé. Il n'y avait pas d'attente. Il n'y a personne qui nous disait « Hey, faut qu'on le sorte avant le printemps. » Tu sais, on a juste fait l'album à notre propre vitesse. Puis c'était le fun pour ça. Moi, le COVID, ça a été bon pour moi. J'ai aimé ça.
Oui, justement, j'avais demandé, ça n'a pas été trop difficile en tant que groupe de musique, le COVID?
Ah ben, pour le projet musical, c'était... ça a été dur sur la carrière, c'est sûr, tu sais, puis on a arrêté de faire des spectacles. Une chance que, tu sais, moi, j'ai été travailler dans les foyers de soins pour les personnes âgées. Et puis, j'ai rencontré... ma future épouse, j'ai perdu plein de poids. Donc, sur mon côté personnel, ça a été extraordinaire. Sur mon côté carrière des hôtesses, ça a été difficile, puis ça a été beaucoup de remise en question. Après, tu sais, comme nous autres, on allait beaucoup en Europe avant, mais ça me tente plus. Puis le reste du band non plus, on a été joué en Allemagne en septembre l'année passée, on était comme, oh, ça ne tente pas de pousser sur une carrière européenne comme avant, tu sais, comme c'était quand même, on s'entend que c'est un gros marché francophone. La France, la Suisse, la Belgique, puis surtout juste la France qui est le pays des festivals. Donc, il y avait comme un espoir tout le temps. On essayait de trouver un angle pour entrer sur le marché français. On a quand même fait une centaine de spectacles en France dans notre carrière. Mais là, on était comme... Non, OK, bon, on va éliminer ça. Là, on a éliminé beaucoup de choses. On fait plus au Québec, puis en Atlantique. Puis on est content que le train que... Moi, en tout cas, je suis content que la façon que ça va la carrière de suite. C'est plus relax. C'est moins... Moi, pédale à gaz au fond, dormir dans l'autobus, vivre dans l'autobus. Là, j'ai plus une vie normale.
D'accord. Est-ce que tu pourrais recommander aux auditeurs une des chansons sur l'album, une que tu préfères peut-être en ce moment?
J'aime une chanson qui s'appelle Mémir. C'est Mémir, c'est la funéraille, c'est inspiré des funérailles de mon ami, de la grand-mère de mon ami Éric Thibodeau, puis qui a une famille qui est très 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 colorée et animée. Et il m'a raconté, à chaque fois qu'il raconte l'histoire de la funéraire à sa grand-mère, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle, ça fait pas de ça. Parce que c'est tellement de personnages. Donc, en écoutant son histoire, puis souvent, comme quand c'est mon ami Eric vient avec nous autres, avec les hôtesses, ou la première fois, « Oh, Eric, raconte l'histoire de la funéraire à ta grand-mère, c'est assez drôle. So, » puis souvent, dans les parties, c'est comme son... C'est sa meilleure histoire. Pour moi, c'est sa meilleure histoire. Inspiré de l'histoire à Eric, on a écrit une chanson, je pense qu'elle dure 6-7 minutes, mais c'est un peu un hommage au funérailles de la grand-mère à Éric Thibodeau. Il y a des gens qui la prennent au premier degré, qui pensent que je suis sérieux là-dedans, mais puis ça parle de moi, mais c'est vraiment un personnage qu'on a créé. Là. Moi, ça, je pense que l'histoire de Mémé, puis j'aime aussi les... On a beaucoup travaillé les back vocals. Depuis qu'il est Rémi dans le groupe, le nouveau bassiste des hôtesses, lui, c'est un excellent chanteur, puis il est vraiment bon sur les harmonies. En fait, c'est un excellent tout, Rémi, il est talent. Il est vraiment talent. Il est bon au piano, il est bon à la batterie, il est bon à la guitare, il chante mieux que moi. Pour vrai, c'est vraiment un bon chanteur. Ça, c'est comme ses talents. Mais oui, mais c'est comme... Je dirais ça a upé notre game en termes de back vocal. Les gars sont, il y a beaucoup de jeux de back vocal là-dedans. Il y a beaucoup, c'est très orchestral. J'aime beaucoup ça, cette chanson-là.
Justement, tu parlais du fait que d'être un personnage, c'est vrai que le côté hôtesière, c'est très coloré, très exubérant comme ça. Donc, tu n'es pas comme ça au quotidien, du coup?
Non. J'étais quand même 16 ans ambulancier. J'étais préposé aux soins avec les personnes âgées. Je viens juste de finir une élection. J'étais en élection contre la chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick dans une élection partielle dans mon coin de la péninsule acadienne. Donc, non, dans la vie au quotidien, je suis pas le même. C'est définitivement un personnage, puis c'est important. Puis je comprends quand même, les gens peuvent faire la confusion entre un personnage puis la réalité, mais c'est correct, je veux dire, je l'assume. Mais ouais, donc, au quotidien, je suis plus tranquille, disons. Je suis moins sauter sur les tables puis me vider de la bière sur la tête. Là.
Mais... C'est comme un exutoire.
Ouais, absolument. Puis j'aime ça, moi, j'aime ça. Je l'appelle le Serge Brideau de la scène. Puis je me parle pas à la troisième personne, je sais juste pas comment l'appeler. Là. Mais tu sais, j'aime ça être sur scène, j'aime ça, c'est à côté, cette folie-là. Puis j'aurais toujours besoin de ça. Peu importe ce que je vais faire dans ma vie, j'ai besoin des hôtesses. Parce que j'ai besoin de cet endroit de création-là, cet endroit de liberté-là. Puis ça me fait du bien.
Ok, alors du coup, tu t'es produit hier soir avec ton groupe. Où est-ce qu'on va te retrouver encore par la suite dans les prochains jours?
Ce soir, on est au Marquee. On joue, je pense qu'on joue tard, on joue à minuit. Mais sinon, écoutez, on va sortir les dates bientôt. On va être Francophonie de Montréal, à Tadoussac. On fait 18 festivals, je pense, cet été, Bout du Monde, en Gaspésie. On fait le tour du Québec. Aussi, on joue en Atlantique, on joue en Acadie aussi. J'aimerais venir jouer. J'aimerais jouer à la baie Sainte-Marie. Ça m'a jamais arrivé. J'aimerais jouer à la baie Sainte-Marie. Puis j'aimerais revenir. Si je fais ça, on fera un spectacle à Halifax. Mais il faut juste trouver le bon temps. Mais écoutez, s'il y a des auditeurs qui nous entendent, allez sur la page des hôtesses d'Hilaire ou sur notre site web puis parler à notre agence. On aimerait bien venir jouer en Nouvelle-Écosse.
Ma dernière question, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de dates avec les hôtesses d'Hilaire. Qu'est-ce que tu crois, c'est quoi le succès de ce groupe? Qu'est-ce qui plaît?
Qu'est-ce qui plaît? Je pense que c'est comme l'espèce de liberté là, que les hôtesses, tu sais, comme on incarne une certaine époque, tu sais, la musique psychédélique un peu, rock un peu, on se prend pas au sérieux. Je pense que ça fait juste du bien. Mais je pense, j'espère. Nous autres, ça nous fait du bien. Puis, nous autres, on rit. Puis d'habitude, les gens rient à nos spectacles. Les gens ont du plaisir, puis ça danse. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste une espèce de... pas trop se prendre au sérieux, puis ça fait du bien.
OK. Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Peut contenir des infos.
Un gros merci à Adèle pour son intéressante entrevue qu'elle vient de nous présenter.
Absolument. Et François, on peut inviter les gens à demeurer en contact avec nous autres et l'émission peut contenir des infos?
Oui, on peut le faire soit par courriel, pcdi@radio-rfa.com ou en visitant notre page Facebook.
Bien sûr. Sinon, continuez à nous écouter en rattrapage.
Faire ça.
Oui, absolument. La semaine qui suit la diffusion en ondes à la radio et en streaming sur Internet, vous visitez notre site Internet à nous autres de l'Alliance des radios communautaires du Canada.
Donc, radio-rfa.com.
T'es bon, t'es pas pire.
Ah.
Il a bien appris sa leçon.
Oui.
Allez là, la semaine qui suit la diffusion en ondes de l'émission en tant que telle.
Puis on peut l'écouter en rattrapage.
C'est ça. On vous invite évidemment à l'écouter en direct sur votre station de radio ou encore sur l'application mobile ou le site web. Mais la semaine d'après, ça vous tente de l'écouter ou de la réécouter.
Réécouter, ouais. C'est des fois vous avez manqué.
Ouais. Radio-RFA.com, c'est l'autre façon. On marque un temps d'arrêt.
Absolument.
Déjà rendu.
Yeah, une pause. Oh, on aime ça, nous autres.
Puis dans un instant, on revient pour le dernier quart d'heure. Restez branchés.
Cette émission peut contenir des infos.
Toi qui es amateur de petits véhicules électriques.
Oui, absolument.
Parce que tu as eu une trottinette électrique.
Oui.
Tu as eu, ou tu as, un vélo électrique.
Assistance électrique, effectivement.
Ah, t'as un vélo électrique.
Ben oui, un vélo électrique, comme une chaise électrique, mettons.
Et tu as une moto électrique.
Oui, une moto électrique maintenant.
Une moto électrique qui fait?
Ouais, c'est ce qu'ils appellent les motos à basse vitesse, là, les low-speed motorcycles.
OK.
Ça veut dire que c'est l'équivalent à peu près d'un scooter. Là. C'est 70 km/h.
C'est un véhicule urbain.
Un véhicule urbain,
c'est
exactement.
Un véhicule. Ben, je vais te parler justement d'un véhicule urbain et qui va probablement s'ajouter à ta collection à un moment donné.
Ah, tu sais que je suis un early adopter,
oui,
moi.
C'est pour ça que je t'en parle.
Ouais, j'aime ça être un petit peu en avant de la parade.
Je vais te parler du Lovely O.
Lovely O, OK.
Le Lovely O.
Ça sonne presque comme une petite toune de Lovely O.
Ça sonnerait comme du Elvis ou quelque chose de même.
Ah, oui.
Oui, hein, du Elvis, Lovely O.
Lovely O.
C'est un micro... Ah ouais, tough, celle-là. C'est un micro véhicule électrique qui commence à 11 000 $ sans les subventions là. 11 000 $.
OK.
C'est un véhicule urbain, là. On parle d'un petit véhicule urbain. Sa particularité, il est expédié.
Ah oui.
Comme des meubles IKEA.
Ah! Là, je comprends ton mot du jour tout à l'heure.
Et voilà, c'est de là qu'il sort le fameux IKEA.
Tu voulais m'amener là.
Oui. C'est un nouveau mode de production et d'expédition. Ils ont voulu, bien sûr, s'inspirer des fameux meubles IKEA.
Oui.
Lovely, basé à Stockholm, prévoit de produire son nouveau véhicule électrique, le O, dans... Ouais, ça fait James Bond aussi.
Oui, ça fait un peu
le
James
O.
Bond.
Oui, oui, oui. C'est un personnage de James Bond, O.
Je pense que oui.
Dans une usine principale, ils vont l'expédier en paquet plat.
OK, en pièces détachées, autrement dit.
Ben, ça va être plat.
OK.
Ça va être vraiment plat. C'est grâce à cette nouvelle caractéristique qu'ils ont brevetée, bien entendu, c'est que 20 unités de ce véhicule-là peuvent tenir dans un conteneur standard qui contiendrait normalement à peu près 4 véhicules de taille normale.
Oui, les espèces de conteneurs maritimes.
C'est ça, les conteneurs maritimes.
Ils sont capables d'en rentrer 20, étant donné que...
Parce que là, c'est tout en boîte plat.
OK. Et
contrairement aux meubles IKEA, qui ne sont pas assemblés quand on les achète,
ouais,
dans le cas de la Lovely, ce processus va avoir lieu dans une usine régionale plus petite.
Ah, fait qu'à la place d'avoir des gros plans de travail, des grosses usines démesurées,
voilà, t'as tout compris.
Il va y avoir des petits concessionnaires ou des petits garages pas très loin où
qui vont assembler les boîtes.
C'est intelligent, ça.
Ben oui, oh oui. Mais espérons que ça vient avec la clé. Là.
Ouais, c'est ça, exactement. Donne un petit coup de clé à Allen une fois par mois, ça va tenir.
C'est ça. Yoï. La Lovely O est censée nécessiter jusqu'à 80% d'énergie en moins pour sa production et son utilisation. Ça, c'est comparé, bien sûr, à un véhicule électrique standard. Ses qualités environnementales sont encore améliorées par le fait que toutes les pièces du véhicule sont recyclables et peuvent être fabriquées à partir de matériaux renouvelables.
Ça, j'aime ça.
Oui, moi aussi, j'aime ça. La conception légère de la micro-voiture, elle pèse moins de 400 kilos, donc 800, à peu près 882 livres,
oui.
880 livres, signifie qu'elle ne nécessite que 6 kWh aux 100 km pour se déplacer. Ça permet donc à la petite batterie de 6 kW de fournir 100 km d'autonomie. Ça peut sembler faible en 2023, mais pour un véhicule qui est à vocation urbaine,
oui, exactement,
c'est amplement suffisant.
Tout à fait.
Et les batteries, c'est deux petites batteries que tu peux enlever, rentrer dans la maison, tu branches ça. Ça prend une heure chaque batterie à se recharger et puis, oups, t'es prêt à repartir.
Ben c'est merveilleux parce que tu peux partir le matin pour le travail avec ta petite voiture Lovely Ho. T'enlèves les batteries dans le stationnement du bureau.
Exactement.
T'entres ça dans le bureau, tu recharges ça, tu ressors à la fin de la journée et...
Si tu fais plus que 100 km par jour, effectivement, c'est ce que tu pourrais faire.
C'est pas pire, ça.
De plus, la faible vitesse de pointe du véhicule... 90 km/h, et sa conception qui est vraiment, bon, légère,
oui,
la rendre plus sûre pour, bon, toutes les piétons, les cyclistes, les autres usagers de la route, par rapport aux véhicules électriques lourds qui sont de nos jours, là.
Ben, on s'entend que les gros, et là, je veux pas casser du sucre sur le dos des propriétaires de Ford F-150 ou de Dodge Ram 1500, là, puis les affaires comme ça. Mais on s'entend que dans
que
le paysage. Ben non.
Mais
on s'entend que dans le paysage urbain,
il
y en a que c'est à toute fin utile, excusez-moi, comme un tank sur le dos.
Ça a l'air, ça fait comme un, effectivement, c'est tellement gros, tellement haut.
Toujours un peu.
Ça a l'air d'un tank.
Toujours un peu peur de voir ce genre de véhicule-là dans une zone scolaire avec des enfants d'âge scolaire, 7, 8, 9 ans, là, qui se promènent aux alentours des pick-up et tout ça, puis là, t'en vois certains qui partent des fois, puis que j'aimerais pas être...
Ouais, mais tu sais, les aides à la conduite aujourd'hui...
Il y a ça. Il y a ça, absolument.
T'sais, ça rend le véhicule un peu plus sûr.
Mais là, ces petites voitures-là, là,
mais ces petits, t'sais,
pour les déplacements urbains... On, là,
11 000 $?
Ben!
Ben là, c'est 11 000 $ US, là, mais quand même, là. Tu sais, puis tu vas rajouter à ça probablement des subventions.
J'adore. Franchement, là.
Tu sais, le véhicule va t'en revenir à...
T'as surveillé.
5-6 000 piastres, ben, ça va à peine, non?
J'espère que c'est pas encore une autre patente là, qui va finir, qu'ils lancent ça comme ça, puis
ouais,
ça
non,
va
espérons.
Tomber aux oubliettes.
Non? Ou qu'ils vont garder juste pour l'Europe, là.
Ben,
espérons qu'ils vont la traverser ce bord ici. Là.
OK. Ben, j'aime ça parce que ça, c'est en plus recyclable, là.
Oui.
Ça génère pas
tout
de déchets.
Est, c'est ça, tout est recyclable.
C'est ça, ou enfin pas trop. Mais ça m'amène à vous parler des déchets électroniques qui ont plus que triplé en 20 ans au Canada. Effrayant. 20 ans, c'est quoi? Ça nous amène à peine au bord des années 2000, ça?
Oui, 2023. Effectivement.
Et sur un aussi court laps de temps, oui, la quantité de déchets électroniques générés au pays a plus que triplé. C'est effrayant. C'est effrayant.
Oh, ouais. Tu sais, il existe des endroits où on peut aller porter nos...
Ouais.
Les gens le font pas, c'est...
C'est ça.
Envoyé à la poubelle.
Et le pire, c'est que le phénomène ne va pas s'estomper, manifestement. Non. Ça va même s'amplifier au train où vont les affaires, mm-hmm. selon les auteurs d'une nouvelle étude qui a été réalisée sur le sujet. Ce sont des chercheurs de l'Université de Waterloo, en Ontario, qui se sont penchés sur le cycle de vie des produits électroniques, depuis le point de vente jusqu'à la fin de leur vie utile. Mm-hmm. Et ils l'ont fait depuis 1971. Donc, ils ont regardé ça sur à peu près un siècle. Donc, c'est pas d'hier, là. Quand on parle de déchets électroniques, à quoi on peut penser? Bon, votre vieux PC, entre autres, vos téléphones cellulaires, téléviseurs, mais des gadgets aussi, tu sais, un petit drone, des affaires comme ça.
Okay.
Mais on peut aller maintenant plus loin que ça parce que même les gros électroménagers comme le frigo et le lave-vaisselle.
C'est vrai, il y a de l'électronique là-dedans.
Il y a de l'électronique là-dedans. Oui. Parce qu'on s'entend depuis plusieurs années maintenant, les laveuses ou les lave-vaisselles et les frigos, c'est bourré de la musique, c'est bourré avec des affaires.
Oui, t'as des écrans. Oh, oui.
T'as du démarrage à distance et des trucs du genre. Si bien qu'il y a des composantes électroniques là-dedans, c'est presque des vrais petits ordinateurs à toute fin utile avec microprocesseurs et puces électroniques. Alors, depuis l'an 2000, on est passé de 8,3 kilos de déchets électroniques en moyenne par personne à, tenez-vous bien, 25,3 kilos par personne en 2020. En moyenne.
Hey, c'est énorme.
25,3, c'est 2,2, ça veut dire c'est quasiment c'est même plus que 60 livres de déchets électroniques qu'on génère chaque année par personne.
Parce que ça, c'est pas recyclé.
Ben, ça s'en va plus souvent qu'autrement, malheureusement, au dépotoir.
Au dépotoir, imagine.
Et les chercheurs pensent, entre autres, que les chiffres sont attribuables, entre autres, au rythme de plus en plus accéléré, évidemment, où on développe de nouvelles technologies, ça va de soi. Mais on peut aussi pointer du doigt la durée de vie des appareils.
Ben ouais, parce que
c'est l'obsolescence programmée, là. C'est pas un mythe, là.
Ben non, parce que tu sais, t'achetais un frigidaire, pense au temps de nos grands-parents, là. Ils achetaient un frigidaire, là, ça durait une vie, là.
C'est ça. Puis nos habitudes de vie aussi nous amènent à surconsommer de plus en plus, parce que les appareils électroniques sont faits de telle façon que le modèle qu'ils vont sortir en 2023... Puis le modèle qu'ils vont te sortir en 2026 dans 2 ans ou dans 3 ans, tu vas dire « Ah, il me semble que mon téléphone cellulaire et ma tablette, ça a donc bien l'air dépassé. »
C'est ça. Ah, il est passé date.
C'est ça aussi qui nous amène un peu à surconsommer. Mais il faut dire que les manufacturiers, là, ils nous aident pas non plus. Parce qu'eux autres, là, ils accélèrent la sortie des nouveaux appareils, comme je le disais. Et ils introduisent aussi de nouvelles fonctionnalités dans leur système d'exploitation qui font que le vieux téléphone d'il y a 3 ans, 4 ans, qui marche encore plutôt bien pour prendre des courriers électroniques, placer des appels, recevoir des SMS, tout à coup, ils te rendent des affaires de réalité virtuelle, de scanner avec des puces NFC, des trucs du genre. Puis là, à un moment donné, je te donne un exemple. Ta banque, elle met à jour son application pour que tu puisses prendre des photos de tes chèques, des trucs du genre, et que tu puisses reconnaître ou payer avec ton empreinte digitale. Mais ton téléphone d'il y a 3 ans, 4 ans, il n'y a pas ces bébelles-là, puis lui, il peut pas avoir nouveau logiciel. Ça fait que c'est quoi que tu fais? Tu as deux options. T'as pas 56 solutions. Deux choses l'une. Soit tu changes de banque, ce qui est un peu la grosse solution, on s'entend, là, tu as changé tes affaires de banque. Ou encore, tu dis, coudonc, ma banque est 100% en ligne. Je suis avec Tangerine, mettons, ou avec Simply, je sais pas trop. J'ai pas le choix, là. Il faut changer mon téléphone cellulaire si je veux continuer de faire mes affaires.
Oui. Et en plus, le système d'exploitation qui est pas mis à jour.
Exactement. Alors, c'est comme ça que les Canadiens ont généré en 2020 tout près d'1 million de tonnes de déchets électronique. Et on croit que d'ici 2030, on devrait atteindre les 1,2 millions de tonnes produites annuellement. Comment on va régler le problème?
Oui, comment?
Ben, d'une part, peut-être qu'on pourrait essayer de démontrer comment on pourrait tirer des avantages économiques de tout ça. Ça a l'air colon, là. Excusez l'expression. Ça a l'air con à dire comme ça, mais valoriser nos déchets électroniques.
Hmm.
Parce que, d'après l'étude, il y a plusieurs minéraux précieux qui sont là-dedans.
Absolument,
et d'autres composantes qui se retrouvent là-dedans, puis que on pourrait tout à fait retirer en fin de vie.
Les recycler.
Les recycler, exactement, les récupérer et s'en servir pour créer de nouveaux appareils.
Oui.
Des déchets qui pourraient, en quelque sorte, constituer une nouvelle chaîne d'approvisionnement. Parce qu'on sait qu'il y a des affaires qui, à un moment donné, vont se tarir. Tu sais, on parle du lithium déjà, quand on commence à se dire, on va-tu avoir assez de lithium dans un horizon de X années?
Oui.
Ben, peut-être bien qu'il y a des composantes comme celle-là, par exemple, qui se retrouvent dans des déchets électroniques.
Ouais.
Et malheureusement, l'infrastructure de recyclage des déchets électroniques ne s'est apparemment pas tellement développée au Canada depuis les dernières années. Et on voit là peut-être une façon d'être un peu plus proactif en justement s'organisant pour améliorer nos flûtes, comme on dit.
Oui.
Ajuster vos flûtes. Là. Écoutez, là, on génère de plus en plus de déchets. Ben, écoutons, améliorer le recyclage, la récupération et tout
exactement.
Ça. Et on doit aussi miser sur la remise à neuf, prolonger la durée de vie des produits et puis en même temps qu'on va justement, comme je le disais, mieux recycler, mieux récupérer, ben peut-être qu'on va y arriver un jour ou l'autre, mais pour l'heure, là, ça n'a pas l'air de
faire. Tu sais, parce que les gros électroménagers, c'est bien beau tous les gadgets qu'ils mettent dedans, mais plus qu'ils en mettent des gadgets, plus que ça a de la chance de lâcher à un moment donné.
Exactement, ça fait
que... c'est comme les voitures d'aujourd'hui, tu sais, c'est rendu tellement complexe. Tu peux pas nécessairement aller dans n'importe quel garage faire réparer ta voiture parce que c'est trop complexe. OK, mais c'est parce qu'enlevez-en un petit peu, là.
On est arrivé en bout de parcours de cette émission,
déjà,
de ce kit d'émission.
Oh!
Hein?
Oh, ça finit bien,
de
ça.
De ce kit d'émission qu'on a monté depuis tout à l'heure, pendant la dernière heure, et puis on espère qu'il manque pas de morceaux. Non, ça...
Si ça a l'air correct, là.
Ça a tenu.
Oui.
On va se retrouver la semaine prochaine.
Absolument,
bien sûr,
avec un autre mot.
Avec un autre mot du jour. Salut.
Salut.